Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Vous est-il déjà arrivé de lire la Bible? Si oui, pourquoi? Était-ce pour connaître la volonté de Dieu ou par curiosité? Cherchez-vous à connaître la vérité pour la mettre en pratique afin d'obéir à Dieu et lui plaire? Ou faites-vous partie de la grande majorité des chrétiens qui se laissent guider par des idées émanant du paganisme, par des traditions qui finissent par l'éloigner de Dieu, quoi qu'elle en pense? Aujourd'hui, nous allons examiner quelques idées bien ancrées dans certaines religions, mais qui sont en contradiction avec la Bible. Certains affirment que le Christ eut un commencement, qu'il fut créé, et ils citent « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création ». Dans ce passage des Écritures, le mot « commencement » est traduit du grec « arché », qui signifie « commencement », « l'auteur de » ou encore « origine ». Selon de nombreux lexiques, ce mot peut avoir une cause active comme « commenceur » ou mieux « celui qui commence ». Ce mot n'a pas d'équivalent en français. Si le Christ a eu un commencement, alors il n'est pas Dieu de toute éternité. L'apôtre Jean écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et l'apôtre Thomas, après l'avoir reconnu, lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Un Dieu n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Or le Christ est l'Éternel, comme on peut le constater en rapprochant certains passages de l'Ancien Testament et du Nouveau. En citant le prophète Joël, Pierre déclare, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De son côté, le prophète Joël déclare, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Dans ce verset, le mot éternel est traduit du tétragramme YHVH. Il s'agit donc de Yahvé ou Jéhovah. Quantité d'autres passages démontrent d'une manière irréfutable que Yahvé ou Jéhovah est celui qui allait devenir notre sauveur. Pour appuyer leurs affirmations, ceux qui pensent que le Christ n'existe pas de toute éternité citent Paul qui déclare au sujet du Christ « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Mais ne nous contentons pas de ceci. Examinons le contexte et nous y trouvons le premier-né d'entre les morts. Voilà la vérité. Le Christ est le premier-né, le premier à ressusciter d'entre les morts, et il est encore le seul à l'heure actuelle à avoir obtenu cette résurrection, à être monté près du Père. Car l'apôtre Jean a déclaré, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » L'apôtre Jean, à qui le Christ a confié sa mère, a fait cette déclaration plus de 25 ans après la mort de Marie. On raconte encore que Jésus était connu avant sa naissance sous le nom de Michaël ou Michel, et on se base pour cela sur un passage du livre de Daniel. « Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. » L'ange qui donna la vision à Daniel dit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, il s'agit donc d'un archange, est venu à mon secours. En lisant l'un des principaux, nous pouvons conclure qu'il y avait d'autres chefs principaux, d'autres archanges qui avaient autant de pouvoir que Michaël. Jésus est de loin supérieur à tous les anges et à tous les archanges. C'est lui qui les a tous créés. L'apôtre Paul déclare à son sujet, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Michaël et les autres chefs sont tous des serviteurs soumis au Christ, chef suprême après Dieu le Père. Voici notre preuve. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Si l'archange Michel n'ose pas porter un jugement sur Satan, mais laisse ce soin au Seigneur, à celui qui allait devenir le Christ, nous devons en conclure que l'archange Michel et le Christ sont bel et bien deux personnages différents. Le nom Michel est traduit de Michael, il provient de l'hébreu Michael. Il est donc bien question du même personnage dans Daniel et dans Jude. Si l'archange Michel n'ose pas contester, s'imposer à Satan, le Christ, lui, n'hésite en aucune façon. Il lui dit « Retire-toi, Satan ». Pourquoi ? Parce que le Christ n'est pas un archange. Il est Dieu de toute éternité, comme nous l'avons lu dans l'Évangile de Jean. C'est en examinant la Bible de cette façon que vous pourrez vous opposer à ceux qui la falsifient, et comme le Christ l'a fait, vous pourrez alors leur dire « N'avez-vous pas lu dans les Écritures ?» Passons à un autre enseignement en contradiction avec les Écritures. Certaines personnes affirment qu'il faut se faire baptiser pour les morts. Mais un tel baptême est-il valable ? Quelles sont les conditions pour être baptisé ? Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Un mort peut-il se repentir ? La réponse est non, puisque les morts sont inconscients, qu'ils ne peuvent même plus célébrer l'Éternel. La Bible nous dit que les morts ne savent rien, qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée dans le séjour des morts. Dieu accorderait-il son Saint-Esprit à un mort ? Non, cela ne servirait à rien. Allons même plus loin. Un bébé que l'on baptise peut-il se repentir ? La réponse est toujours non. Son baptême est donc sans valeur aux yeux de Dieu. Les chrétiens peuvent-ils se faire baptiser pour des personnes mortes, n'ayant pas été baptisées ? L'apôtre Paul a-t-il enseigné le baptême pour les morts ? Cette pratique est basée sur une mauvaise traduction du texte original. Il convient de remarquer que l'Église du Nouveau Testament n'a pas adopté cette observance. C'est l'hérétique Marcion qui, vers l'an 150 de notre ère, a introduit cette coutume dans un monde professant être chrétien. Le baptême est pour les vivants. C'est un symbole par lequel ceux qui sont vivants reconnaissent leurs transgressions, meurent par rapport à leur ancienne vie de péché et sont ensevelis symboliquement avec le Christ dans une tombe liquide. Ils en ressortent dans l'espoir d'une vie nouvelle grâce au mérite du Christ et à la promesse du Saint-Esprit. Alors, pourquoi se faire baptiser pour les morts ? Paul écrit « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?» Le sujet de ce chapitre n'est autre que la résurrection. Paul cite l'exemple de ceux qui, ayant été baptisés de leur vivant, l'avaient été dans l'espoir de la résurrection, et celle-ci était l'espérance des morts en Christ. Pourquoi se serait-il fait baptiser si les morts ne ressuscitent pas ? Voilà la question posée par Paul. Ce verset n'a pas été traduit correctement. Il n'est pas question de baptiser à la place des morts ou au nom des morts ou encore pour les morts. Le mot grec traduit par le mot « pour » est « hyper ». Ce mot a plusieurs significations. Au-dessus, sur, au lieu de, pour la réalisation de, dans l'espoir de, pour l'espoir de. Seul le contexte est à même de déterminer la traduction correcte. Par conséquent, le mot grec « hyper » devait être traduit par « pour l'espérance de », ce qui donne « autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour l'espoir des morts ». Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour l'espérance des morts ? Quelle espérance était en ceux qui sont morts ? L'espérance de la résurrection, bien entendu. Le baptême, l'immersion complète dans l'eau et le fait de sortir d'une tombe liquide est un symbole de cette espérance des morts. Ce verset n'a rien à voir avec le baptême au nom des morts non baptisés. Un tel baptême n'est pas biblique. Voyons maintenant la question du jeûne. On me pose assez souvent des questions à ce sujet. Ce qu'il est et quand faut-il jeûner ? D'autre part, nous entendons de plus en plus parler de gens qui se mettent à jeûner. Ils font la grève de la faim, mais ils prennent de l'eau sucrée ainsi que des médicaments pour pouvoir supporter un jeûne très long. Il faut savoir que jeûner, au sens biblique du terme, c'est rester sans boire et sans manger. Moïse écrit « Je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, et l'Éternel me donna les deux tables de pierre. » Plus tard, Jésus, qui était l'Éternel de l'Ancien Testament, en fit autant avant d'affronter Satan. Lorsqu'elle vit que le peuple était en danger, la reine Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni le jour ni la nuit. » Dans la Bible, le jeûne est observé pour se rapprocher de Dieu, pour s'humilier et se soumettre à la volonté de Dieu, afin de recevoir son pardon, sa miséricorde, sa délivrance, son aide, en vue d'une recherche ardente de la volonté divine et être aussi en mesure d'aider plus efficacement autrui. Josaphat et tout le peuple d'Israël jeûnèrent quand ils furent menacés de conquête et d'esclavage. Les gens de Ninive jeûnèrent quand ils apprirent que Dieu projetait de les exterminer. David jeûna lorsque son premier enfant, avec Bathsheba, tomba gravement malade. Les anciens jeûnèrent et prièrent avant l'ordination de Paul. La Bible montre également la mauvaise façon de jeûner. Il ne faut pas jeûner dans le but de forcer Dieu à répondre aux prières qui lui sont adressées. « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ?» demande le peuple. « De mortifier notre âme, de mortifier notre aide, de ressentir les affres de la faim, si tu n'as point égard. » L'Éternel répond, « Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, un jour où il humilie son être? Il ne faut pas jeûner par hypocrisie. Le jeûne biblique doit être un effort sincère qui vient du cœur, dans le but de se rapprocher de Dieu et non pour ameuter l'opinion publique ou pour obliger les gouvernements à prendre des dispositions autres que celles qui existent. Jésus a dit que ses disciples jeûneraient. Il déclare, « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Lorsqu'on jeûne, le temps normalement alloué pour les repas devrait être consacré à la prière et à la méditation. Le seul fait de s'abstenir de nourriture ne remplit aucun but spirituel. Il est bon de rappeler que beaucoup de personnes ont des difficultés à jeûner, surtout lorsqu'il s'agit de plusieurs jours. Il est donc particulièrement recommandé de consulter un médecin avant de commencer un jeûne prolongé, surtout pour les personnes qui ont des problèmes. Maintenant, lorsqu'on vous parlera du jeûne à la manière du monte, et après avoir approfondi la question, tout comme le Christ, vous pourrez répondre, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures ?»